La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous le constatez, nous sommes un tantinet enchifrené.
Oui, on n'a pas une voix terrible. Hein.
Non, la grippe est passée par là et vous savez que la controverse fait rage sur l'intérêt de se vacciner ou pas. Enfin, nous, on a oublié de nous en soucier. Vous voyez où ça mène. Hein.
Mais bon, on s'aime beaucoup, alors on se l'est passé l'un l'autre, la grippe, vous voyez.
Voilà, c'est comme ça. Pour le meilleur et pour le pire. Et nous annonçons déjà, ou plutôt d'ores et déjà, que l'émission allant sur ses 30 ans très prochainement, il y aura bientôt, un dimanche matin, une émission spéciale consacrée par Jacques Viala, en compagnie de vos serviteurs, à la planète du jazz et à son parcours.
Eh oui, 30 ans hein.
Quelle histoire. Pour aujourd'hui, nous allons nous replonger dans l'histoire des titres. Alors, il faut bien dire une chose, c'est que nous suivons le dictionnaire des titres, mais naturellement, nous ne vous disons pas tout, nous ne citons pas tous les morceaux, parce qu'à ce moment-là, il faudrait nous estimer largement centenaires quand nous arriverions au bout, ce qui serait un peu prétentieux de notre part, surtout vu l'état dans lequel nous voilà. Mais nous piochons d'abord les histoires qui peuvent être intéressantes ou significatives, et puis aussi, il faut que ça colle avec des disques de bons musiciens, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin en tout cas des meilleurs, et ça fait donc une sélection. Et celle-ci s'ouvre aujourd'hui sur...
Poor Darling Nelly, pauvre chérie de Nelly. Et là, on évoque une certaine Nelly Gray. Eh bien, elle n'a pas eu de chance, cette Nelly, parce que c'était une esclave, déjà, c'était pas de chance. Et parmi les esclaves, elle avait trouvé un amant. Et ça, c'était tout à fait interdit dans certaines plantations, attention. D'autres avaient le droit de se marier, d'avoir des enfants, mais après les enfants, les leur enlever pour les mettre chez d'autres. Mais enfin bon, passons. Et elle, cette pauvre Nelly, avec son amant, ils ont décidé de s'enfuir. Ils sont bien partis, ils se sont bien enfuis, mais ils ont été rattrapés. Parce que vous savez que le système... En tous les cas, dans le Sud, était drôlement performant pour rattraper les esclaves, parce qu'il y avait des primes pour les rattraper. Il y avait des gens qui faisaient que ça. C'était des chasseurs d'esclaves pour la prime. Et ben voilà, la poor Nelly.
Surtout que, dans toute cette histoire, son amant a réussi à passer inaperçu, à se fondre dans le décor, mais elle ne courait pas assez vite. Ils ont été séparés, en fait. Et elle est retournée d'où elle venait, dans le Kentucky, de force. Et elle a continué, tristement, à vivre sa vie d'esclave. Et tout ça, ça nous vient d'un monsieur qui s'appelait Hanby, qui était un des organisateurs des filières clandestines de passage d'esclaves du sud vers le nord.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même des gens qui, eux, aidaient les esclaves en fuite. Il y avait le bon et le mauvais. Hein.
Oui, mais c'était souvent d'ailleurs également des Noirs qui avaient monté ces organisations. Et le fils de cet homme-là, qui a connu par son père toute cette triste histoire, parce que son père y était, a composé un morceau en souvenir de ça. Et c'est ce morceau qui s'appelle « Pour Darling Nelly ». Et le titre a été rechangé pour « Darling Nelly Gray ».
Et ça, vous allez l'entendre par Louis Armstrong, accompagné des Mill Brothers.
Oui, parce que bien franchement, si vous dites simplement à un amateur de jazz, My Darling Nelly Gray, il s'écrit immédiatement
Louis Armstrong.
Les Mill Brothers.
Oh, my poor Nelly Gray, they have taken you away, and I'll never see my darling anymore. I am sitting by the river and I'm weeping all the day, for you're gone from that old Kentucky shore.
Oh, my poor Nelly Gray, they have taken you away, and I'll never see my darling anymore. I am sitting by the river and I'm weeping all the day, for you've gone from old Kentucky's shore.
Oh,
Nelly Gray. They have taken you away, and I'll never see my darling anymore. I am sitting by the river, and I'm weeping all the day, for you're gone from that old Kentucky shore.
Now, boys, what you think of this?
Oh, my poor Nelly Gray, they've taken her away, and I'll never see baby anymore. Oh, baby, didn't those there. I'm sitting here by the river, and I'm all in a shiver, for she's gone from old Kentucky shore. Oh, baby, didn't that then. Oh, yeah, they didn't that then. Oh, yeah, they didn't that then. By that, but that, now do do that, do do that, that. Oh, baby, didn't that then. Oh, baby, didn't that then.
Et le titre suivant, c'est Poor Cathy Red, la pauvre Cathy Rousse. Quand on entend ce titre, Poor Cathy Red, on se dit, qu'est-ce qui lui est arrivé, pauvre femme ? Exactement comme on pense à la petite Nelly dont on vous a parlé. Eh bien, en réalité, c'est une personne à deux faces.
La première, c'est une dame extrêmement bien élevée, respectable, qui tenait une maison de jeu et de plaisir de la plus haute distinction à East St. Louis.
Seulement voilà, quand elle était fâchée, sa nature volcanique prenait le dessus et tout son superbe vernis éclatait totalement et elle avait à ce moment-là un langage de harangère et de furie fleurie, je peux vous le dire.
Oui, l'auteur du dictionnaire des titres parle d'un langage unladylike, c'est-à-dire pas du tout digne d'une lady. Il faut imaginer un incident à la table de jeu. Deux types commencent à se disputer et la patronne qui débarque avec sa chevelure rousse, le verbe haut et l'insulte fleurie. Effectivement, c'est un beau spectacle. Et tout ça, ça nous a été raconté par Hubie Blake qui s'y trouvait. Ce sont des histoires, parce que Hubie Blake est mort à 100 ans, il y a déjà pas mal de temps. Et c'est le pianiste qui va vous raconter ça, Hubie Blake.
Cathy Red, Cathy Red.
Ce que vous venez d'entendre, on vous a dit que c'était Hubie Blake, c'était à la fois un musicien mais un sacré conteur, avec une mémoire extraordinaire. Quand on pense qu'il est mort à plus de 100 ans, il en avait des souvenirs. Et maintenant on va parler d'argent.
Ah ! Enfin ! Car le titre suivant s'appelle Pound Horn. Pound Horn, ça voudrait dire littéralement instrument à une livre. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Lorsqu'un musicien jouait non pas d'un instrument mais de deux ou même de trois, il avait une gratification supplémentaire quand il enregistrait avec deux instruments ou avec trois. Et donc, pound, traduit en dollars.
En fait, c'est le mot d'argot qui désigne le billet de 5 dollars. En l'occurrence, dans le disque qui vient, Bill Coleman a troqué sa trompette pour un bugle. Il y a des gens qui font grand cas du bugle dans le jazz, et même qui l'appellent Flugelhorn, de son nom d'origine particulièrement gracieux, puis qui fait très érudit, parce que hein, si tu dis « je joue du bugle », « ah, vous jouez du bugle ?» Ah bon ? Mais si tu dis « je joue du Flugelhorn », « ah, vous jouez du Flugelhorn ?» Ah. Nous attirons l'attention de l'auditeur dans ce disque sur le saxophoniste ténor Ben Webster, qui est le partenaire de Bill Coleman pour les minutes qui viennent. Le morceau suivant aurait dû s'appeler Preservation Blues. Preservation Blues a été enregistré par des musiciens qui ne valent pas quand même le gratin du gratin. Et nous avons préféré nous focaliser sur le Preservation Jazz Band. Parce que tout ça nous mène à un lieu mythique du jazz Nouvelle-Orléans. C'est une sorte de grande grange située en pleine Nouvelle-Orléans, un bâtiment assez ancien, qui je crois a été racheté par une association. J'ai pas très bien compris comment s'est bidouillé le montage, mais en tout cas, c'est là que le jazz Nouvelle-Orléans se conserve. C'est là qu'ont joué tous les anciens, c'est là que les anciens actuels jouent toujours. Et si vous êtes bon musicien et de passage, et que vous avez pu vous faire estimer votre talent ici ou là, eh bien, peut-être serez-vous invité à vous joindre aux gens qui officient sur scène, ou plutôt dans... du côté musique, au Preservation Hall, qui est naturellement très fréquenté et par les amateurs de jazz européens qui passent par là, et par les touristes, c'est un must.
C'est un peu un label d'aller jouer là-bas.
Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, notre ami Alain Martien, qui a joué de nombreuses fois, invité par les musiciens locaux, nous a raconté que c'était quand même une expérience tout à fait étonnante de se retrouver au milieu de ces légendes vivantes en train de jouer la même musique qu'eux, dont on a un peu hérité en fait. Quel morceau choisir ? Nous nous sommes rabattus donc sur l'orchestre, sur le Preservation Hall Jazz Band. Et là, nous avons trouvé un solo de clarinette de Michael White, du docteur Michael White. Un solo de clarinette absolument délectable qui s'appelle...
Burgundy Street Blues.
En quelque sorte, le blues de la rue de Bourgogne. Vous pouvez d'ailleurs trouver que c'est assez d'actualité puisque la rue de Bourgogne est la rue qui se trouve exactement dans l'axe de l'Assemblée nationale, façade arrière. Il y a quelques bistrots où se retrouvent ces messieurs quelquefois. Et actuellement, comme on entend beaucoup parler d'eux, eh bien écoutez, vous avez une petite pensée pour eux. Un peu mélancolique, peut-être, vu les circonstances. Voici Burgundy Street Blues, le blues de la rue de Bourgogne. Le morceau suivant nous plonge en pleine Amérique, tu sais, l'Amérique des séries, l'Amérique où les ados s'affolent, l'Amérique, comment ça s'appelait ce truc, Anna Montana. Alors, tu es dans cet univers-là, l'univers des ados, des écoles et des petites bandes qui se tirent dans les pattes.
Et le morceau s'appelle « Prepping for the prom », c'est-à-dire en se préparant pour la prom. Qu'est-ce que c'est la prom ? Ça veut dire, ça vient du mot français « promenade » et... C'est une manière de faire son entrée dans le monde, pas du tout des adultes, mais des grands ados, où les filles cherchent absolument, désespérément et quelquefois très facilement, à avoir un cavalier qui va venir les chercher, habillé absolument, les souliers cirés, le nœud papillon à l'époque, les cheveux gominés et la fille avec une grande robe. En forme de cloche, vous voyez.
Et quand la Cadillac du papa du garçon s'arrête devant la maison,
voilà.
Un zoom arrière, enfin c'est un moment terrible dans l'épisode.
Oui, et quelquefois le garçon a 16 ans et il vient avec sa propre voiture.
Ah, quel pays.
Et la fille monte absolument enchantée et tous ces ados vont se montrer à leur propre bal.
Mais il faut préparer son apparence, ses beaux habits, ça prend du temps et c'est toute une histoire. Et donc ce Primpin' for the Prom, c'est la préparation donc à l'événement qui est racontée en musique par Duke Ellington. Je ne sais pas très bien dans quelles circonstances a été trouvé le titre du morceau suivant, mais à mon avis, c'est plutôt après l'enregistrement. Parce qu'il y a là-dedans une rythmique qui carbure tellement fort qu'elle évoque vraiment un métro à grande vitesse.
Et il s'agit de The Queen's Express.
C'est-à-dire la ligne de métro souterraine qui va très vite de Manhattan au Queens.
Le Queens est un quartier de New York.
Oui, d'ailleurs c'est là où se trouve la maison de Louis Armstrong, qui est maintenant transformée en musée. Et tout un tas de choses sur lui, d'archives, sont collectées et quelquefois exposées, ou en tout cas accessibles, à l'université de Queens. Alors c'est un quartier qui est quand même d'apparence assez bourgeoise, en tout cas le petit quartier où se trouve la maison d'Armstrong. Mais n'empêche que le lendemain du jour où nous sommes allés visiter cette illustre maison, il y a une fusillade dans la rue d'à côté qui a fait 3 morts.
Oui, c'est pas toujours finalement très tranquille, hein, le Queens.
Non, enfin, disons que nous avions bien choisi notre jour et qu'aucune balle perdue n'est venue s'égarer dans le thorax de quiconque, en ce qui nous concerne en tout cas. Voici donc, organisé par le trompettiste Buck Clayton comme une sorte de jam session, ce morceau The Queens Express, à la rythmique, catapulté par le grand Joe Jones à la batterie. J'ai une devinette maintenant. Quand un bateau mâle
Oui.
Rencontre sur le Mississippi un bateau femelle, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, ils ne font pas plein de petits bateaux, mais ils se battent.
Ils font la course.
Et là, il y a le Jim Lee qui va rencontrer de Cathy Adams. Et Cathy Adams, c'est la dame qui a gagné, là.
Eh oui, c'est une course de bateau qui est restée très célèbre.
Et c'est pas jeune, cette histoire-là, puisque c'est en 1883.
Tu te rends compte? Mon grand-père avait un an. Aïe, aïe, aïe. Quand même, ça laisse rêveur. Bon, on en parle encore. Et là, c'est le chanteur de blues Jazz Gillum qui raconte cette histoire. Et détail intéressant dans ce disque, c'est la seule fois où je l'ai entendu à cet instrument. Memphis Slim, il joue non pas du piano,
mais de l'orgue.
Oh, well, Jim Lee and Katie. Oh, well, the two boats had a race. Did Jim Lee and Katie. Oh, well, the two boats had a race. And Katie threw the water all in Jim Lee's face. Now, Big Kate Adams left Memphis just about 5 o'clock. Big Kate Adams left Memphis, it was just about 5 o'clock. And when she got down to Helena, oh well, she stopped in Eagle Rock. I'm gonna ride Katie Adams. I'm gonna ride her until she stops. Ooh, well, I'm gonna ride her until she stops. I ain't gonna lay around here. Oh, well, well, and be no stumbling block.
Naturellement, vous devez vous demander à quelle vitesse avait circulé le Cathy Adams sur le Mississippi pour gagner cette course. Eh bien, nous avons fait le calcul, parce que c'est des miles, c'est compliqué, mais on a fait le calcul. C'est quelque chose comme 30 km/h. Eh bien, je t'avoue que pour un bateau à roue à aube, cavaler à 30 km/h, ça me semble déjà un exploit considérable. Et maintenant, un peu d'histoire.
Vous écoutez bien. Qui était Rasputin?
Ah !
D'après la figure de Laurent, il n'était pas si sympa que ça.
Et encore, je suis glabre.
Allez, on vous aide, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui à la maison savent qui est Rasputin. D'abord, il était russe.
Ce qui n'arrange rien.
C'était une sorte de mage qui avait mis la main sur la famille impériale russe, tsar et tsarine compris, parce qu'ils avaient prétendu, ce Rasputin, qu'il pouvait soigner la maladie du jeune futur tsar qui était malheureusement hémophile. Ce couple-là avait eu plein de filles et qu'un seul garçon. Alors vous pensez s'il était précieux, le petit tout.
Mais je dois dire que les exploits de Rasputin ne s'en sont pas tenus à tenter de soigner le jeune Tsarevitch. Le bruit court avec constance que toutes les dames de la cour et de l'environnement, impératrices compris, sont passées à la casserole. Alors maintenant,
méfions-nous des rumeurs, si vous voyez ce que je veux dire.
Toujours est-il que ça a fait une très bonne chanson, avec un refrain du genre « Ra, ra, Rasputin, padapapa », tu vois, le genre de choses. Et ce morceau a eu beaucoup de succès dans les orchestres de danse des années 20. Et puis, comme il était plutôt rigolo et assez intéressant à jouer, finalement, sur le mode humoristique, quelques jazzmen l'ont enregistré aussi, dont Rex Stewart, qui était un trompettiste, qui ne reculait devant aucun gag. Alors vous allez entendre sa version. Et quand vous entendrez le saxophone baryton qui, là, joue évidemment le rôle de Rasputin, vous entendrez derrière les ricanements du kazoo, parce que Rex Stewart, là, il prend son kazoo et il rigole derrière. C'est très amusant. Ça s'appelle Rasputin et le disque d'où c'est extrait s'appelle La musique heureuse de Rex Stewart.
Eh bien, si c'était plutôt rigolo ce que vous venez d'entendre. Par contre, le suivant, qui s'appelle Rat Race, c'est-à-dire la course de rats, ben, c'est pas si rigolo que ça. Ça évoque un peu ce qu'on appelle en Amérique « struggle of life », c'est-à-dire la bataille, la terrible bagarre pour la vie. Ça évoque donc l'univers implacable du business.
Et naturellement, au travers de la musique de Count Basie et de ce titre qu'il donne à ce morceau, du show business. Parce que le show business, je peux vous dire, c'est pas du gâteau non plus.
Ouais, c'est pas mieux que le business. Hein.
Non. Et en plus, s'agissant d'art, c'est quelquefois assez désolant.
Oui, parce que les égos sont encore plus développés, parce que l'art, c'est difficile de le quantifier. Et on peut, même si on est moins bon, être persuadé qu'on est bien meilleur que l'autre.
Très juste. Enfin, c'est tout ça dont notre ami Basie a fait un package qui vous livre tout cru sous ce nom.
The Rat Race.
Après les rats, voici le chat.
Eh ben, on se dirait, le chat a mangé le rat. Oh, pas au rami, c'est pas du tout ça.
Oh non, c'est une triste histoire.
Il s'agit du chat d'André Persiani, qui s'appelait Petite Pomme, tout gentiment.
Tu sais pourquoi Petite Pomme ? Parce qu'à New York, où André Persiani a vécu pendant pas mal de temps, à faire de la musique, entre autres avec Jonah Jones, avant de revenir dans la mère patrie, New York s'appelle la grosse pomme. Je pense à cause de ça.
Alors lui, fin plaisantin, il l'appelait Petite Pomme. Et malheureusement, il est ce Petite Pomme auquel il était extrêmement attaché, mais il s'est fait écraser par un chauffard. Alors là, du coup, en français, il a appelé le morceau Requiem pour un chat.
Et il l'a interprété à deux pianos, avec son ami et quasiment alter ego, Milt Buckner.
Mm-hmm.
Nous voici maintenant devant un morceau qui s'appelle « Rompin' at the Reno ». Alors évidemment, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ce Rompin' et ce Reno. Eh bien, c'est toute une histoire, une page d'histoire.
Oui, d'abord, « Rompin' », ça veut dire, en gros, on s'éclate au Reno.
Ouais, exactement.
Reno, c'est un club.
Ouais, le Reno Club.
Et là, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant. C'est que c'était un club qui prenait aussi bien les Noirs que les Blancs.
C'était à Kansas City, il faut quand même l'ajouter.
Oui, et c'était il y a longtemps.
Bien sûr.
Hein, c'était pas maintenant.
C'était à la grande époque où Kansas City était administré par un maire qui était également le président du syndicat des gangsters du coin.
Oui, un peu mélangé tout ça.
Voilà, voilà. Il s'appelait Pendergast. Il a laissé un souvenir absolument extraordinaire dans l'esprit des musiciens parce qu'il a vraiment transformé sa ville en un lieu d'amusement tel que... Il a attiré à lui, juste après la grande crise, tous les musiciens possibles et imaginables.
Donc, les Blancs et les Noirs avaient le droit de venir dans le même établissement, mais dès qu'ils arrivaient, ils étaient aiguillés, à gauche ou à droite, suivant leur couleur.
Et oui. Alors, en demi-étage, il y avait un espace pour la danse, et puis il y avait, je pense, l'orchestre. Et puis, tout en haut, il y avait des chambres, et vous savez à quoi servaient les chambres, hein, c'est même pas la peine qu'on vous explique. Donc... Au Reno Club, tout ce petit monde menait grand train et la musique était assez tonitruante. Et un beau jour, la radio, et c'est là que nous allons mettre l'accent sur l'importance de la radio.
C'était en train de se développer énormément. Et il faut comprendre que dans un pays aussi immense que l'Amérique, c'était un lien, la radio.
Et justement, le Reno Club décroche une retransmission radiophonique de son programme de danse et une retransmission coast to coast, c'est-à-dire qu'on entendait ça sur tout l'ensemble du territoire. Et le hasard a voulu que John Hammond, qui était un découvreur de talent absolument exceptionnel, entende cette radio, cette station, depuis sa voiture, un soir. Il note de qui il s'agissait et il va y voir à Kansas City. Il entend l'orchestre, il est totalement conquis. Il arrive à le faire venir à New York en passant un peu par Chicago avant parce que c'était pas évident comme musique par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre à Harlem. Mais toute l'histoire de l'orchestre de Bézi, tout le parcours de Bézi est parti du Reno Club et de cette émission de radio. Donc c'est assez normal que Count Basie, plus tard, ait dédié un morceau au Reno Club, hein, quand même... Hein, pas de raison.
Romping at the Reno.
De la Kansas City Suite, arrangée pour Bézi par Benny Carter soi-même.
Alors là, on va vous faire plaisir. Parce qu'on va vous donner un titre, on ne peut pas être plus français, n'est-ce pas? Ça s'appelle Ça y va Boogie.
Et oui, mais c'est pourtant rangé à la lettre S, car on a transformé ça en onomatopée, et ça s'écrit S-A-H-I-V-A.
Et c'était un petit plaisantin. Quand je dis petit, il était plutôt costaud, mais français, et il s'appelait Alix Combel. Et ça, c'est sûrement lui qui a trouvé ça.
Aucun doute. Là, il reçoit Buck Clayton, le fameux trompettiste, et c'est un vrai bonheur de réécouter la musique d'Alix Combel. C'était un orchestre qui avait beaucoup de punch, parce qu'Alix Combel faisait fonctionner ses orchestres à l'endroit, hein, ses orchestres qui pulsaient ferme, qui avaient des arrangements assez simples, mais pas du tout indigents, pour autant d'ailleurs. Et c'est curieux, cet orchestre avait une caractéristique, c'est que la plupart du temps, il y avait des trompettes et des saxos, mais il n'y avait pas de section de trombone. Il faisait 100. En tout cas, ça nouveau d'inaugurer la lettre S de notre série d'émissions sur les titres de jazz par ce...
Ça y va Boogie, avec Buck Clayton.
Ah oui, et avec Buck Clayton, eh ben on peut toujours dire ça y va.
Thank you.
C'était La Planète du Jazz.
À la planète prochaine.